Bonsoir. Bienvenue dans ce groupe de partage autour de l'unité, autour des enseignements non duels, autour de tout ce qui dit d'une manière ou d'une autre, nous sommes un. Et y compris si nous n'avons pas cette perception, hein, que nous sommes un. Voilà, nous sommes le lundi 26 mars 2012, un lundi printanier, c'est le premier groupe du printemps, hein, ce lundi. Et pour ce lundi de printemps, j'accueille avec joie aussi les nombreux frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont ensemble en ce moment avec nous et qui font un groupe de plus en plus grand, semaine après semaine. Alors, pour nous inviter tous ensemble, et incluant ces nombreux frères et sœurs, je vais faire sonner le gong, juste pour que nous partagions un moment d'unité, de présence, une. Voilà, alors je vais introduire la soirée en quelques phrases, et puis ensuite nous nous sentirons libres de partager quoi que ce soit qui peut être, qui a envie d'être partagé, ou qui peut refléter aussi des difficultés à ressentir cette unité, à percevoir cette unité, hein, toutes les caractéristiques de l'ego qui vient parfois tenter de nous séparer du sentiment de l'unité, et qui est en fait un grand jeu que nous sommes venus jouer sur Terre pour faire comme si nous n'étions pas un. Et à ce propos, la leçon 31 d'un cours en miracle que j'ai sélectionné, qui pourrait nous servir de point de départ pour un partage, si ça c'est juste, dit ceci: je ne suis pas la victime du monde que je vois. Voilà, c'est une phrase que cette leçon 31 invite à répéter au long de la journée pour déclarer notre indépendance, hein, comme notre déclaration de liberté par rapport au monde, que ce soit le monde intérieur ou le monde extérieur. Voilà, alors souvent dans ces soirées, nous donnons une phrase simple qui peut résumer toute la non-dualité à elle seule, si nous en percevons le sens profond. Et cette phrase, c'est « Dieu est ». Voilà, cette phrase suppose que Dieu est tout ce qui est, hein, c'est l'existence tout entière, et Dieu étant l'existence tout entière, ne peut s'opposer à rien, puisqu'il n'y a que Dieu dans cette unité-là. Et si Dieu ne s'oppose à rien, forcément Dieu accueille tout, Dieu ne juge rien. Et ça peut être un excellent point de départ pour nous relier à cette unité-là. Hein. L'idée d'accueillir quoi qu'il se passe, que ce soit agréable, désagréable, dans ma vie, me libérer de l'attachement aux choses difficiles ou de l'attachement aux choses faciles. Voilà, et pour ceux que le mot Dieu dérange, nous mettons n'importe quel mot qui reflète l'unité, et ce n'est pas un mot qui vise à rappeler des dogmes ou à classer Dieu en tant que supérieur et nous en tant qu'inférieur. Mais Dieu est tout ce qui est, Dieu est l'unité de toutes choses, et je suis forcément dans cette unité-là. Donc Dieu n'est pas extérieur à moi, hein, dans ce contexte. Alors on peut dire la source, on peut dire l'unité, on peut dire l'amour, on peut dire l'existence avec un grand E, la vie, hein, avec un grand V. Peu importe, hein, si le terme vous parle, utilisez-le, puisque ce n'est pas l'utilisation qu'en ont fait les religions dogmatiques qui est de mise ici. Donc nous pouvons dire que nous sommes aussi Dieu, hein, nous sommes Dieu en tant qu'extension, en tant que création, hein, qui s'étend tout le temps, mais qui demeure un. Et c'est pour ça que nous pouvons dire souvent nous sommes un. Nous sommes un en tant qu'extension de Dieu, nous amplifions l'unité, hein, nous la faisons croître, mais pour autant nous ne faisons pas une extension qui est séparée de Dieu. Voilà. Alors, nous pouvons parler de tout ce qui semble nous séparer du sentiment d'unité comme des rappels pour revenir à l'unité, hein, pour voir comment défaire ces pensées qui souvent sont des scénarios que nous inventons de toutes pièces, des ballons de baudruche que nous gonflons jusqu'à voiler complètement la réalité. Et comme nous pouvons faire les scénarios, nous pouvons aussi défaire les scénarios de l'ego en les regardant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des scénarios, hein, des ensembles, des scripts fabriqués de toutes pièces et qui partent d'une seule prémisse. Nous sommes séparés, hein, les uns des autres. C'est la prémisse de l'ego, hein. Voilà, donc nous pouvons joyeusement partir de cet état-là, du sentiment d'être séparé, et puis partager à propos de ce qui nous permet de progressivement nous détacher de ce sentiment de séparation pour de plus en plus vivre un sentiment d'être relié à tout ce qui est. Donc aucun prérequis pour participer à cette soirée. On se base de temps en temps sur un cours en miracle parce que c'est, à mon sens, un ouvrage non duel majeur, hein, qui est un véritable cadeau pour l'humanité en ce moment. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et aussi il y a tous les enseignements que notre vie de tous les jours nous amène pour cheminer dans un temps apparent du sentiment d'être séparé jusqu'à la perception, à la foi inébranlable que tout est un, avec possiblement des allers et retours entre l'un et l'autre. Voilà, nous jouons une grande pièce de théâtre que certains qualifient de blague cosmique, en pensant que nous ne sommes pas divins et en faisant tout notre possible pour nous persuader de ça à travers nos expériences humaines sur cette planète et à travers tous les mondes qui sont physiques. Nous partageons aussi cette expérience de séparation apparente avec d'autres êtres, hein, qui sont aussi dans des expériences similaires. Voilà, donc nous nous sentons libres de partager ou de rester en silence. Le silence peut être aussi une bonne manière d'être en commun, hein, d'être comme un, hein, ça peut être en deux mots également, de communier dans cette présence. Et puis, afin que cette soirée se déroule avec le moins possible de contrôle de ma part, en tout cas, je vais citer des phrases d'un courant miracle qui apparaissent à la page 30 de ce livre, qui pour moi ont une portée et sont comme un tremplin de plus en plus puissant pour laisser faire les choses au lieu de les diriger dans ma vie. Et ces phrases disent simplement ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ces cinq phrases, mais on peut aussi les laisser simplement résonner. Et c'est vrai que ça parle essentiellement de faire confiance et d'arrêter d'essayer de mener le jeu et de laisser le jeu être mené par celui qui sait, par Dieu, par l'unité, par tout ce qui est, par l'existence. Et nous, en tant que croyance d'être séparés, bien nous pouvons faire confiance à cette partie bien plus vaste de notre esprit, bien plus juste de notre esprit, pour nous rappeler la vérité, pour nous guider dans toutes nos expériences, surtout quand nous nous sentons désemparés, quand nous ne savons pas, et que nous avons l'humilité de le reconnaître. C'est peut-être une des choses les plus importantes. Je ne sais pas, et je reconnais humblement que, avec mes ressources qui momentanément me paraissent limitées, eh bien je n'ai pas de solution à certaines situations, mais il y a une partie de moi qui sait, qui a la connaissance de la réponse, de la solution à cet apparent problème. Et je peux me détendre et puis me laisser guider. Voilà, sur ce je cède la parole. Bienvenue à tous les partages, bienvenue à tous les silences.
Les cinq phrases que Avi vient de citer, en fait, sont précédées par une petite introduction qui les présente et qui dit ceci, à peu près. Dans toute situation qui demande de l'aide, tu peux déjà faire beaucoup pour toi-même et pour les autres en prenant la situation comme suit. Et là viennent les cinq phrases. La première, c'est « Je suis ici pour aider véritablement ». Il y a le mot « véritablement ». Et là, déjà, on voit que... Pourquoi il y a « véritablement » ? Parce qu'il y a possibilité de croire qu'on n'aide pas véritablement. Ça, c'est l'ego. L'ego semble aider. L'ego est persuadé qu'il aide. Si on regarde les journaux, si on regarde les discours politiques, religieux et autres, tout le monde pense aider. Et le cours nous dit « Vous ne cessez... » la plupart du temps, d'utiliser des moyens qui font l'enfer pour faire le ciel. Vous voulez faire le ciel, mais vous utilisez des moyens qui font l'enfer. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas clair, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes créateur et que, un peu comme Jésus qui disait « pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il n'y a pas de coupable, tout le monde est innocent. Mais je suis ici pour aider véritablement. la première des phrases. Pourquoi ? Comment est-ce que je vais aider véritablement ? Par la non-dualité, par le vrai pardon, par une demande de voir les choses différemment, car je suis créateur. Et voir les choses différemment, c'est voir quelles sont les choses en réalité, qui sont mes frères et sœurs, qui suis-je, qu'est-ce qu'est la réalité ? La réalité, c'est Dieu et tout ce qui est. Donc la réalité n'est qu'amour, elle n'est que perfection, elle n'est que lumière, que liberté, qu'abondance, etc. Donc je suis ici pour aider véritablement. Comment est-ce que je peux aider véritablement ? En choisissant la vérité. Et j'aide véritablement. Si je continue comme avant, comme la plupart de mes frères et sœurs, y compris moi-même, parce qu'on ne peut pas venir ici sans égo, à tenter d'arranger le monde, tenter de redresser ce qui ne va pas, en fait, je ne me rends pas compte que je donne une réalité à ce qui ne va pas. Donc, je donne une réalité au mal. Et ça semble bien réel, parce que nous sommes très, très profondément créateurs, infiniment créateurs, et personne ne s'oppose à notre création, c'est-à-dire notre imagination. Nous sommes esprits. Donc, je suis ici pour aider véritablement. Je peux aider véritablement que par la vérité et l'accueillir en moi-même. Donc, je ne travaille que sur moi-même. C'est ça l'aide véritable. C'est pas d'aller dire aux autres ce qu'ils ont à penser, ce qu'ils ont à faire. Parce que si je fais ça, je les veux différents. Donc, je ne les accueille pas. En d'autres termes, je ne les aime pas. Parce que l'apparence de dualité, l'apparence de conflit, l'apparence de manque, d'angoisse, de culpabilité, de peur, de jalousie, c'est une apparence, c'est une illusion, c'est pas la réalité. C'est ça la non-dualité. C'est Dieu est tout ce qui est. Donc je suis ici pour aider véritablement. Je vais aider véritablement en choisissant la vérité en toute situation. Et la deuxième phrase, c'est « Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. » Alors bien sûr, c'est pas comme moi, c'est les 7 milliards que nous sommes. Donc nous sommes tous envoyés par qui ? Par qui nous sommes ? Puisque Dieu est tout ce qui est. Donc il y a un jeu formidable, et nous comprenons que nous sommes envoyés par l'Esprit, par nous-mêmes, par l'Esprit que nous sommes, l'Esprit réel, dans cette pièce de théâtre où nous nous amusons à imaginer ne pas être qui nous sommes. Ce qui n'a pas de sens. Donc, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé, et tous mes frères et sœurs sont également là pour représenter celui qui les a envoyés. C'est le même celui, avec un C majuscule. C'est l'Esprit. C'est que ça change tout. Et là, c'est que cette vision-là donne la clé du pardon, dont on parle beaucoup. La troisième phrase, c'est une phrase extrêmement pratique. C'est celle qui donne la clé dans toute situation. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc c'est la confiance dans l'instant où je suis dirigé. Et bien sûr, je vais avoir la pensée peut-être. Oui, mais mes frères et sœurs, est-ce qu'ils sont comme moi ? Est-ce qu'ils pensent ça ? Mais ils sont parfaitement dirigés. Je cesse de prendre la place de l'esprit. J'accueille le plan divin. Dans un monde chaotique, qui semble très chaotique, parce qu'effectivement le libre arbitre est donné à l'infini, eh bien, on peut rêver de séparation hein, comme ça à l'infini, et donc ça crée l'attaque et la défense, l'angoisse, les règles, ça crée l'imagination d'un monde séparé, d'un monde menaçant et d'un monde dangereux. Donc, la troisième phrase. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. C'est une phrase clé qui m'aide à prendre position à chaque instant dans toute situation. Et je prends comment là ? Je la prends comment cette position ? Eh bien, la quatrième phrase me dit « Je suis heureux d'être là où je suis, sachant qu'il y va avec moi. » Mais qui y va ? Ben, l'esprit d'amour. Donc, et l'esprit y va aussi avec tous mes frères et sœurs. Donc, à chaque fois, je suis accompagné par l'infiniment puissant que nous sommes tous. Ça veut dire aussi que c'est l'esprit qui gère complètement le jeu. Comme dit cette fameuse phrase de la leçon 135, Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout ce qui arrive, tout événement, passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un dont le seul but est ton bien et le bien de tous. Donc la quatrième phrase, je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, ça veut dire c'est là, c'est maintenant. Et donc ça veut dire je ne suis pas là au hasard, puisqu'il souhaite que je sois. Si c'est l'esprit qui souhaite que je sois là, j'y suis, parce que la volonté de l'esprit est accomplie. Et donc tous mes frères et sœurs sont parfaitement à leur place. Ce qui veut dire que quand je rencontre un frère ou une sœur, n'importe qui, la relation est parfaitement à sa place, elle est parfaitement planifiée par l'esprit. Et je suis invité à la joie dans la situation, car je sais que cet esprit-là nous rassemble tous les deux dans une relation que je vais voir comme sainte, c'est-à-dire comme vraie, pour une guérison, pour un éclat de rire ensemble, pour la fête qu'on fait ensemble, en disant, mais namasté, tu es celui qui est, tu es, nous sommes un. Nous sommes qu'amour. Notre relation est une relation, c'est une occasion de choisir à nouveau qui nous sommes. Et je ne te demande pas de choisir, parce que je choisis pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire, je choisis pour toi? Ça veut dire, je choisis que l'autre est le Christ, c'est-à-dire l'autre est l'expression de Dieu, la manifestation de Dieu. Est-ce que je vais changer la manifestation de Dieu? Est-ce que je vais la vouloir autre? Bien sûr que non. Donc le travail se fait en moi et nulle part ailleurs. Donc je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Donc tout va bien, tout va bien. Et effectivement, il y a un travail de guérison formidable. Et c'est ce qui amène à la cinquième phrase, qui est « Je serai guéri en le laissant m'apprendre ou m'enseigner à guérir. » Je serai guéri en le laissant. Donc je le laisse, ça ne veut pas dire « je ne sais pas le faire ». Mon ego ne le sait pas. Ce jeu de séparation que j'ai choisi de jouer ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne sait pas ce que c'est que la guérison. Je vais le laisser m'apprendre à guérir. Je suis dans un processus d'apprentissage. Et le processus d'apprentissage dans lequel nous sommes tous est un processus de lâcher prise, où nous lâchons des vieilles croyances erronées qui ne nous servent plus, qui ne nous servent pas, qui ne font qu'apporter la souffrance, le conflit, la séparation, le vieillissement, la mort imaginée, il n'y a pas de mort, mais l'apparence de mort. Donc je reprends ces cinq phrases doucement avec l'introduction. Dans toute situation qui demande de l'aide, tu peux déjà faire beaucoup pour toi-même et pour les autres si tu prends la situation comme suit. Je suis ici pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Et je serai guéri en le laissant m'apprendre ou m'enseigner à guérir.
Alors moi, j'ai envie de raconter une anecdote. qui vient confirmer le sentiment qu'il y a un réveil de plus en plus général sur la planète. Il y a une prise de conscience de dimensions bien plus vastes que notre réalité terrestre qui peut se passer. Et comment ça se manifeste? Eh bien, sur mon site Être Plus, j'approuve les annonces, les nouvelles annonces qui sont proposées. Et puis, il y a des gens qui s'inscrivent, etc., qui proposent des tas de choses, du massage. Et puis, de plus en plus aussi des activités de spiritualité. Et je trouve que cette année, il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, j'ai approuvé une annonce qui me... C'est peut-être la première fois que j'approuve une annonce qui parle vraiment de non-dualité et qui invite à une réflexion ou à une réunion autour de ça. Alors, il y a quelques mots, je les vois comme un clin d'œil de l'esprit pour ce soir. C'est pour ça que je suis guidé à le lire. Le titre, c'est « Et si le karma n'existait plus ?» C'est un atelier qui se nomme comme ça. Alors cet atelier, si je reprends les quelques phrases qui me parlent, questionne sur notre vécu, sur nous et notre vécu d'une manière centrale. Et il part avec ces quelques questions. Et si tout ce qui nous entoure n'était que pure création de notre pensée? Que notre réalité, notre environnement, ce monde tridimensionnel dans lequel nous croyons évoluer, n'était qu'une illusion. Alors qu'autour de nous, les structures fondamentales semblent s'écrouler, que notre sécurité matérielle, économique, politique, sociale et familiale se voit remise en question, tant sur le plan personnel que planétaire, nous nous demandons de plus en plus si ces multiples soubresauts vibratoires ne sont que les conséquences, entre guillemets, karmiques de nos choix passés. Voilà, donc cet atelier, moi je suis pas en train de faire la promotion, mais c'est simplement une invitation à prendre conscience des vieux schémas, des croyances limitatives, d'essayer de faire tomber ses croyances et de voir dans ce qui nous arrive quotidiennement une opportunité exceptionnelle de passer à l'action et de créer enfin le paradis sur terre. Ça, c'est les termes que cette personne emploie et elle termine par « Tout est une question de choix ». Je trouve ça extraordinaire, qu'il y ait de plus en plus d'ateliers de ce type-là qui invite à cette question profonde. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Est-ce que je choisis de croire à l'illusion, de croire au soubresaut de la planète? Est-ce que je choisis de donner ma confiance dans la peur? Ou est-ce que je choisis l'amour? Et le fait qu'un atelier comme ça soit proposé et ne soit pas accompagné de qu'est-ce que c'est que le jugement, qu'est-ce que c'est que ce groupe d'allumés qui propose ça, c'est comme si aujourd'hui c'était beaucoup plus naturel de se poser ces questions. C'est comme si on était arrivé à un point crucial de l'évolution humaine où nous constatons que beaucoup de choses dans la réalité physique sont basées sur la peur et ne fonctionnent pas et s'écroulent petit à petit et que nous avons le choix, comme dit ce paragraphe-là de... de créer le paradis sur terre, c'est-à-dire en modifiant nos pensées, de changer le monde qui est autour de nous. Voilà, et la leçon 31, avec laquelle j'ai commencé, va abondamment dans ce sens. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Alors, le monde que je vois reflète le monde que je crois. Parce que je le crois, alors je le vois à l'extérieur. Donc, tout se passe en fait comme si j'avais le choix, comme dit Sylvain, de créer le paradis, de créer l'enfer. Et ce choix-là, il est reconduit par tacite reconduction à chaque seconde où je maintiens ces croyances. À chaque seconde où je continue à choisir la limitation, la séparation, la peur. C'est pas il y a X temps dans l'infini de l'éternité, j'ai fait un choix de séparation et maintenant je suis victime de ce choix. C'est maintenant. Parce qu'on parle non plus d'un temps linéaire, mais maintenant on parle d'un temps sphérique. C'est ce que j'ai lu là aussi récemment dans un temps sphérique où voilà, il n'y a pas de passé et de futur, tout est en même temps. Tout se passe maintenant. Et aussi notre perception du temps change. Donc, ce que je choisis maintenant influence totalement, et j'aime bien ce mot qui est beaucoup employé par Osho, totalement, la perception que je vais avoir de l'instant suivant ou de l'instant présent. Mais ça se passe pas dans... quand j'étais enfant, ça se passe pas dans mes projections sur un jour peut-être, je serai heureux, un jour peut-être je saurai aimer, un jour peut-être je pourrai rester zen, même quand on m'insulte, un jour peut-être je pourrai pardonner, véritablement. Non, ça se passe maintenant. Est-ce que maintenant je fais un choix de peur dans la seconde qui est là, et je reconduis pour une seconde de plus la séparation? Est-ce que je fais un choix d'amour maintenant et je sème une graine qui va servir de base aux instants suivants pour continuer à développer le sentiment d'être un, le sentiment d'être relié à tous. Voilà. Et puis donc de choisir ce paradis, de choisir l'unité. Et quelle est la caractéristique de ce paradis ? C'est que dans ce paradis, il y a l'amour sans opposé. Il y a le bien sans opposé, puisque ce n'est pas duel. Ce paradis-là, il est constitué que de décisions d'amour successives. À chaque fois que j'ai besoin de faire un choix, c'est un choix d'amour que je fais. Et si je veux créer le paradis sur Terre, que je surveille bien mes choix. C'est ça le message de cet atelier. Et c'est pour ça que, et si le karma n'existait plus, c'est une question de, je choisis de pérenniser que je fais un choix et ensuite je suis victime du monde, où je choisis, maintenant c'est bon, les choix qui sont absurdes, qui m'entraînent dans des choses que je ne veux pas, que je prenne responsabilité, que je ne veux pas ces choses et que j'arrête de faire ces choix. Faisons maintenant, dès maintenant, à cette seconde-là, toi qui écoutes, nous avons ce libre arbitre pour faire des choix inspirés par l'amour. Que ferait l'amour à ma place? Si je ne sais pas, je ne sais pas. Je préfère ne pas choisir que de me laisser guider par un choix de peur. Voilà, et ce frère, cette sœur qui est en face de moi, ce monde qui est là, ces dirigeants, ces politiques, voilà, est-ce que je peux les considérer comme des êtres comme moi qui sont venus faire des expériences duelles, mais que je ne juge pas leurs expériences duelles, Je peux être dans cette dualité tout en ne m'identifiant pas à l'opposé de l'amour dans cette dualité qui est la peur. Donc je peux être dans ce monde de dualité sans croire à la dualité, sans croire à l'opposé de l'amour. Croire qu'en face de l'amour, il n'y a rien, il n'y a que l'amour. Et là, je suis monté d'un niveau de perception. Je suis allé dans le niveau de perception de l'unité ou de la réalité de Dieu ou de tout ce qui est, parce que quoi que fasse ou dise l'autre, je le vois comme un être de pur amour, comme moi. Et s'il fait des choix apparemment inspirés par la peur, alors c'est son choix d'expérience qui fondamentalement vise à expandre l'amour aussi, hein, à travers ces choses qui, pour moi, sont difficiles à comprendre, à accepter, à accueillir, avant d'initier des groupes de spiritualité, ben j'étais quelqu'un qui pouvait être jaloux. J'étais quelqu'un qui pouvait haïr. Voilà. Et en face de moi, si j'ai quelqu'un qui juge ma jalousie, qui juge ma haine, qui juge mon désir de changer l'autre, eh bien, ça m'aide pas à aimer. Mais si en face de moi, j'ai quelqu'un qui m'ouvre les bras, qui me dit, c'est pas grave, la vie. Fais tes expériences. Quand tu les auras faites complètement, par toi-même, tu verras qu'il y a autre chose de bien plus facile, de bien plus fluide, que ton âme ressent et veut profondément. Mais pour l'instant, fais-le, c'est ok. Il n'y a pas de problème. Si c'est moi que tu haïs, ben c'est moi que tu haïs. Si c'est moi que tu juges, ben c'est moi que tu juges. Ben si j'ai une personne comme ça en face de moi, ben ça me rappelle d'aimer, ça me rappelle de ne pas juger. Parce que quand je juge, quand je haïs, quand je condamne, ben je suis souffrant, visiblement. Hein, ça me laisse dans un état agité. Et si j'ai en face de moi quelqu'un de tranquille, qui me dit c'est pas grave, viens dans mes bras, viens, t'as besoin d'être rassuré, consolé, ben c'est la seule attitude qui m'aide vraiment, qui m'aide véritablement. Et cette personne, assurément, elle est envoyée par celui qui m'a envoyé moi-même ici, dans ce monde de dualité. Elle est envoyée pour aider, pour m'aider véritablement. Parce que c'est pas en me jugeant qu'elle m'aide, et c'est pas en me condamnant qu'elle m'aide, et c'est pas en se basant sur sa propre peur qu'elle m'aide. Mais si elle le fait, ça fait partie aussi du scénario. Donc parfois je sers de celui qui accueille, qui aide véritablement, et parfois, eh ben, je sers de support à celui ou celle qui accueille, parce que moi je juge, moi je condamne. Et quelle est ma conclusion? C'est que quel que soit le rôle que je joue, c'est parfait. Parce que quand je juge, je donne l'occasion à quelqu'un qui a perçu la vérité, ben, de l'exprimer et de m'aider à revenir à la maison. Et quand en face de moi, il y a quelqu'un qui est dans la peur, qui juge, eh ben, il me donne l'occasion d'exprimer qui nous sommes, sans le rejeter, sans le condamner. Ça peut être Sarkozy, Marine Le Pen ou qui que ce soit. Si je la considère autrement, ou si je le considère autrement qu'un frère de lumière qui est venu ici pour nous titiller, pour nous dire « rappelle-toi qui tu es », alors j'ai perdu le message. Et je fais une expérience duelle qui m'éloigne de l'amour, qui n'est en soi ni bien ni mal. L'expérience a son rôle à jouer. Mais, voilà, je le fais tant que j'ai besoin de le faire pour me rappeler de l'amour. Et quand je me rappelle de l'amour, j'arrête de le faire. Et sur ma route, je croise des êtres de lumière que sont mes frères et sœurs qui me disent, rappelle-toi qu'il n'y a que l'amour. Regarde, la preuve, regarde comment nous pouvons te rappeler ça par nos actes, par notre pardon véritable. Ça aide véritablement. Donc, quelle que soit votre expérience de vie, quelle que soit la difficulté de l'expérience de vie, un jour ou l'autre, vous allez croiser des êtres qui sont là pour aider véritablement, et vous allez entendre ou lire un livre qui va vous rappeler la vérité. Et qui va vous dire, ah bah oui, l'amour, ça, c'est ma maison. Ça, j'y crois, parce que je sais qu'il n'a pas d'opposé. Cet amour-là, j'y crois. Et j'ai des petits rappels hein, dans ma vie. Et ces rappels-là, voilà, chacun de nous a cette fonction, grâce au pardon véritable, de rappeler à l'autre qui il est, de se rappeler à soi-même qui est l'autre. Et ça peut se terminer par quelque chose de très joyeux. Hein. Quand je laisse toutes les expériences que je vois autour de moi dans leur neutralité, comme faisant partie d'un scénario qui s'exécute instruction après instruction d'une manière parfaite pour ramener tout le monde à la maison, tous ensemble. Voilà, cette soirée est très joyeuse pour moi parce que je n'avais pas du tout idée de ce qui aurait pu être dit. Personnellement, je ressens que je démarre avec un petit peu de mental. Et puis ensuite, il y a comme quelque chose qui descend. C'est juste une manière, une sensation, hein, parce que rien ne descend véritablement. Mais il y a quelque chose qui s'installe. Et qui commence à prendre la direction de la soirée. Et cette soirée se passe aussi d'une manière parfaite, dès lors que je n'interfère pas hein, avec une volonté contradictoire, avec la vérité.
Je vais prendre la parole en disant que le sujet de ce soir est très intéressant. Je ne suis pas victime de ce que je vois. Je pourrais dire aussi que je ne suis pas bourreau de ce que je vois. Enfin, ça m'interpelle parce que déjà dans la semaine, souvent on m'envoie des messages internet, mais il y a 3 jours, un compatriote qui m'a écrit pour dire « allons manifester ». Bon, souvent, je ne réponds pas. Mais là, j'ai dit, je suis comme Mère Teresa, j'ai pas besoin d'aller manifester, si tu veux. Alors, j'ai répété la phrase de Mère Teresa. Si tu veux manifester pour la paix, invite-moi, mais si ce n'est pas pour la paix, j'y vais pas. Mais alors, il n'était pas content du tout d'entendre ça. Mais alors, ah bon? Je pense que cette vérité-là, toute vérité pour certains qui ont compris, et pour d'autres, ça passe vraiment pas. Déjà pour moi-même, il n'y a pas très longtemps que je commence à réfléchir de cette manière, vraiment, tout en comprenant à ma manière, à mon niveau aujourd'hui, ce que cela veut dire. Mais cependant, il m'arrive encore que je me culpabilise aussi pour certaines choses. Je me dis non, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ceci. Mais il m'arrive de me ressaisir rapidement pour dire, bon, ça c'est fait. Et je veux dire que je dépasse aujourd'hui beaucoup plus facilement certaines situations qui n'étaient pas évidentes pour moi dans le passé. Autrement dit, c'est pas toujours facile à monsieur tout le monde d'adhérer à cette vérité. Voilà. C'est mon point de vue. Mais quand on est là, on peut toujours agir en fonction de sa compréhension.
Ce que tu viens de dire m'amène à une notion absolument fondamentale que l'ego ne supporte pas parce qu'on lui a appris à chercher le bien et le mal partout et à juger tout, c'est que tout est neutre. Tout est neutre, toute action est neutre. Alors évidemment, dire ça dans ce monde chaotique avec des situations qui semblent tomber sur les uns et les autres, vraiment leur arriver comme ça, tiens, il m'est arrivé une chose incroyable, tiens ceci, tiens cela, et dire que tout est neutre, évidemment, ça semble vraiment très éloigné de la réalité. Pourtant, c'est la réalité. Tout est neutre parce que, à cause de qui nous sommes, à cause de ce qui est vrai, à cause de la réalité avec un R majuscule, de la vérité c'est qui nous sommes, la vérité c'est Dieu et tout ce qui est. La vie est la vie. La mort n'existe pas. Le manque n'existe pas. L'ignorance n'existe pas. La souffrance n'existe pas. Bien sûr, tout ça semble exister. L'obscurité semble exister. Quand on est la nuit et qu'il n'y a pas le soleil et qu'il fait noir, on dit il y a l'obscurité. Mais c'est une perception qui est inhérente au corps physique. Si je suis sous le soleil et que je ferme les yeux, je me dis j'ai les yeux fermés, mais je ne dis pas que je suis dans l'obscurité. Vous voyez, donc à chaque fois, tout vient de notre perception. Et donc tout est neutre. Pourquoi? Parce que ça ne change pas la réalité. La réalité est éternelle, est immuable, inchangeable, c'est qui nous sommes. Dieu est tout ce qui est. Et c'est quelque chose d'absolument fondamental, qui est la clé que nous cherchons tous. Quand je dis chercher, c'est une manière de parler, parce qu'on peut dire aussi je cherche rien, moi je suis heureux, etc. Effectivement, la recherche elle-même est une illusion, mais elle est utilisée dans un processus illusoire, dans un rêve, dans un chemin, un voyage sans distance, qui n'est pas réel, mais qui semble réel. Ce sont un peu les mots du cours en miracle qui dit vous avez besoin de faire un voyage sans distance, qui en fait n'existe pas. Et donc, quand on dit ça, ça veut dire que, quand on dit vous avez besoin, ça veut dire que de toute façon, on est dans un processus d'éveil où nous vivons des situations qui sont des cadeaux et qui nous aident à nous réveiller. Mais ces situations sont neutres, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ça ne veut pas dire que nous avons des perceptions, que nous n'avons pas des perceptions où nous avons l'impression que telle situation est bonne et telle autre situation est mauvaise. L'une semble nous apporter de la joie, l'autre semble nous rendre triste ou autre. Mais tout est neutre, parce que ça ne change pas qui nous sommes, et ça c'est fondamental. Et je suis en train de parler de ce que le cours en miracle appelle le pardon, et le pardon c'est vraiment ça, c'est vraiment se dire tout va bien. Et tout à l'heure, Avi a parlé de responsabilité. Effectivement, il est indispensable que nous prenions la responsabilité de notre expérience. C'est quelque chose de difficile à admettre parce qu'on nous a appris que quand je prends une responsabilité, à ce moment-là, je suis responsable, donc je peux échouer. Si je prends la responsabilité de conduire une voiture, eh bien, je dois faire attention à ne pas quitter la route. Donc, j'admets que je peux quitter la route. La responsabilité dont nous parlons ici, c'est la responsabilité d'avoir choisi ce qui nous arrive, à un autre niveau, pas au niveau de l'ego. Et c'est extrêmement logique parce que nous sommes qui nous sommes. Donc, nous sommes l'expression de la vie et à l'origine, il n'y a que perfection. Et donc nous avons choisi ce jeu de la dualité, en pleine connaissance de cause, en pleine responsabilité. Et si je ne veux pas l'admettre, si je continue ce que nous faisons tous, que moi aussi je sais très bien faire, à me sentir victime du monde que je vois, à avoir l'impression que des choses m'arrivent, des accidents, au contraire des choses heureuses, des pertes, des gains, des rencontres fortuites, etc. Je sens m'être comme un petit bouchon sur des vagues dans une tempête. Tout ça, c'est faux. Je suis responsable. Et la vague sur laquelle je suis à un instant donné dans la tempête, je l'ai choisie en pleine connaissance de cause. Pas le petit ego, pas le petit personnage que je crois être, mais qui je suis. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul acteur dans l'histoire, c'est qui nous sommes. Donc je prends la pleine responsabilité de ma vie. J'ai pas envie souvent. Mais quelque part, j'ai un appel profond en moi sans cesse dire qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Et c'est ça la clé, c'est de regarder toujours ce qui est vrai et ce qui est faux. Et tout le travail dont nous parlons ici en non-dualité, c'est la séparation du bon grain de l'ivraie. Séparer le bon grain de l'ivraie, c'est pas séparer le bien et le mal, puisque le mal n'existe pas. c'est séparer l'illusion de la réalité. C'est dire, ça c'est pas vrai, ça c'est l'illusion, et ça c'est la réalité. Et la réalité c'est qui nous sommes. Dieu est tout ce qui est. C'est la vie. La vie est la vie. Et la vie est vivante. Elle est, comme Jésus qui disait, je suis la voie, la vérité, la vie. Mais il disait aussi, de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Ça veut dire avec le petit égo, le petit personnage que j'ai choisi d'endosser dans cette incarnation pour un certain rôle, ça, je fais rien avec ça. C'est le Père en moi qui agit. Donc, comme on dit souvent, je suis acté par la vie. Je laisse la vie vivre ma vie. Tout ça, c'est des mots, c'est des façons de parler. Parce que c'est la réalité, c'est tout. Donc, je prends la pleine responsabilité de la situation dans laquelle je me trouve. Souvent, j'ai pas envie, parce que je me dis, mais si je fais ça, je vais mourir, ou j'ai plus de, je peux plus chercher une stratégie à l'extérieur ou attendre que ma famille, mon pays, mes relations, la chance, le hasard, Dieu, je sais pas, me donnent des choses. Puisque je prends la pleine responsabilité de ce que j'ai choisi d'expérimenter. Et comme dit Jésus, au début, ça semble nous perdre, ça. Parce qu'on se dit, mais je vais mourir avec ça. J'ai plus aucune chance. Mais en fait, c'est ce qui nous sauve. Parce que je me dis, mais c'est fantastique. Peu à peu, doucement, c'est ça l'apprentissage, je commence à comprendre que, mais c'est la clé que nous cherchons tous. Et là, arrive un ingrédient fondamental qui est l'humilité, mais la vraie humilité. La vraie humilité, c'est pas de dire, mais moi, je suis faible. Non, la vraie humilité, c'est de dire, je suis puissant. Pas le jeu que je connais, pas le petit personnage, mais ce qui vit ma vie à travers moi. Et ici, nous sommes sur un cours en miracle. On parle d'un cours en miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? C'est incroyable, c'est des choses inouïes qui se passent. Des effets de guérison qui sont produits en esprit, et puis il y a des manifestations physiques éventuellement, parce que ce n'est pas automatique. Et le principe d'un miracle, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. Ça se passe. Et la caractéristique de ceux qui font des miracles, c'est qu'ils ne les font pas, ils les laissent se faire. Donc ils vivent leur présent, leur quotidien, et puis ils s'aperçoivent peu à peu qu'il y a de plus en plus de miracles autour d'eux. C'est ça l'humilité. Et si on vient leur dire, mais dis donc, c'est marrant, mais à chaque fois que tu es là, où il se passe des choses, et puis bon, il y a des gens qui viennent te remercier, oui, oui, bien sûr. C'est pas nier ça. Seulement, c'est pas un crédit personnel. Dit, mais oui, mais c'est l'esprit à travers moi, comme à travers chacun. Et c'est ça l'humilité. Donc je suis extrêmement puissant. Dieu est la force, comme dit la leçon ici que j'ai tirée d'ailleurs. Dieu est la force à laquelle je me fie. Je me fie la force qui passe à travers moi, c'est Dieu lui-même. Alors est-ce que je vais mettre une limite à Dieu ? Non. Et c'est ça l'humilité. C'est ce que le cours appelle prendre la deuxième place pour gagner la première, parce qu'il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une place, c'est Dieu est tout ce qui est, et nous sommes cela. Nous sommes la manifestation de Dieu. Bon, en fait, il n'y a qu'une seule place. Mais dans une apparence temporaire, dans un temps illusoire, j'ai bien aimé que Avi tout à l'heure qui parlait de temps sphérique, mais dans ce temps illusoire, sphérique, un temps spirale, on peut dire, tout ça c'est des mots, hein, je prends la deuxième place. Il y a pas, mais c'est une façon de parler, de dire je me recule et je laisse l'esprit vivre ma vie. Je laisse. Mais je laisse quand ? Ben maintenant. Mais quand, mais c'est maintenant, là. Sylvain est en train de parler, il est en train de le faire. Qui c'est Sylvain ? Moi, je ne sais pas. Il y a Sylvain qui dit qu'il ne sait pas qui c'est Sylvain, ce qui est vrai. Je ne sais pas qui sont mes frères et sœurs, mais je choisis la vérité. Je choisis la vérité et je dis non à l'illusion. Je choisis Dieu et tout ce qui est. Je choisis la vie, je choisis la vérité, ce qui est. Ce qui est amour. Donc, évidemment, on peut dire, vous m'étiez en train de choisir des concepts. C'est vrai, c'est vrai. Apparemment, je choisis les concepts. Seulement, si ce n'est pas accompagné d'une pratique, et le concept, c'est quoi ? Ben, c'est que tout est amour. Donc, à ce moment-là, quelle est la pratique ? Ben, c'est d'être amour. Et si je suis amour, je ne juge personne. Comme disait David tout à l'heure, j'accueille tout. Un homme politique, n'importe quoi, je regarde, j'ouvre les journaux, je regarde et j'accueille tout. Je vois des équipes de foot, je vois des championnats, je vois des élections, je vois des luttes, des batailles. Je vois ce qui semble être des haines, des guerres, des menaces, des manœuvres. J'accueille. Je n'ai pas dit je cautionne. C'est rien à voir. Je cautionne rien du tout. Je ne cautionne strictement rien, puisque tout est neutre. J'accueille tout. J'accueille tout dans mon cœur. Et je prends la deuxième place et je laisse la vie se vivre. Je laisse la pièce de théâtre se jouer. Alors il dit, mais alors tu fais rien, tu vas te coucher. Non, non, si je me couche, je fais une action. Donc je fais toujours quelque chose. Et si je choisis de me coucher, je me couche. C'est un choix. Donc c'est la fameuse phrase, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc quand je dis que je laisse l'esprit vivre ma vie, je n'ai pas dit que je faisais rien. Effectivement, en réalité, le petit personnage ne fait rien. Ce qui est important, c'est mon choix, mon éthique personnelle, le choix de la vérité dans l'instant. Et ce choix de la vérité, c'est qui sont les autres et qui je suis. Et donc, c'est le choix de l'innocence. C'est là qu'arrive le pardon, le vrai pardon. Tout le monde est innocent. Le péché n'a aucun sens. Est-ce que Dieu peut pécher? Ça n'a pas de sens. Et il n'y a que Dieu. Dieu est tout ce qui est. C'est ça la non-dualité. Donc, nous parlons maintenant clairement de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et nous comprenons les erreurs passées. Et tout à l'heure, Ravi nous parlait, il a vu cette annonce, et le karma n'existe plus, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais c'est pareil par rapport au passé, par rapport aux erreurs qui ont été commises. Donc il y a un pardon général, le pardon c'est, il ne s'est rien passé, ça n'a rien changé à qui nous sommes. Et Jésus disait à l'époque, il y a 2000 ans, le royaume est en vous, c'est pas la peine d'aller le chercher ailleurs, dans des temples, dans je ne sais pas quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des temples. Et le temple, c'était, et les endroits, les lieux sont utilisés. Et nous savons très bien, ça aide. Ce sont des aides temporaires. C'est utilisé pourquoi? Pour retrouver qui nous sommes, pour retrouver le royaume en nous-mêmes. Et quand Jésus, alors on dit beaucoup, oui, mais Jésus a chassé les vendeurs dans le temple, il a travaillé avec ça. Parce qu'effectivement, il a eu des colères, parce qu'il a eu des jugements. Il le dit lui-même. Et quand il a chassé les voleurs, ça l'a fait bien travailler sur lui-même. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et il a travaillé sur le pardon lui-même en disant, ben, j'ai fait ça, c'est neutre. Je t'ai guidé à faire ça, c'est tout. Et quand il est revenu, au moment où il allait être crucifié pour la Pâque, où il allait être arrêté, parce qu'il n'était pas à Jérusalem, il était en Galilée, surtout autour du lac de Tibériade, c'était là qu'il était son ministère pendant un an et demi. Mais quand il est revenu, avec l'âne, justement, il y a eu un âne qui a été donné par un enfant, effectivement, bon, il y a eu une procession, il y a eu ce fameux, maintenant c'est le dimanche des rameaux, où on célèbre son retour, où il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient, et il a revu les vendeurs dans le temple. Et de nouveau, il a eu des jugements. Il a travaillé immédiatement sur ses jugements. Il est allé à l'écart, il a arrêté de parler à ses disciples. Il est allé faire silence pendant un certain temps, en respirant et en demandant à l'esprit de lui montrer la réalité de ces vendeurs, là, qui cherchaient à faire de l'argent dans le temple. Ce sont les fils du Père, comme lui. Et quand, devant Pilate, Pilate lui a demandé après qu'il était arrêté, donc quelques jours plus tard, est-ce que tu es le Fils de Dieu? En fait, il a dit oui, comme toi. Mais il y avait eu un tel tollé que c'est comme toi, ça a été entendu que par peu de personnes. Et parce qu'il y avait une peur et une violence, parce qu'effectivement, il dérangeait les règles établies. Et c'était des règles de pouvoir. Ce qu'on comprend, c'est les règles de l'ego. Les règles que je connais très bien, parce que je ne peux pas venir ici m'incarner sans ego. Donc il ne s'agit pas de dire quelqu'un a tort parce qu'il y a un ego apparent. On ne peut pas venir s'incarner sur cette planète sans ego. C'est inhérent à ce jeu. Ce jeu est innocent. Il est neutre. Il n'est pas nécessaire. Rien n'est nécessaire. Il est comme ça. C'est tout. Ça vient de la pensée de séparation. Et nous parlons non-dualité, mais c'est en même temps risible, parce que c'est une bonne blague, tout ça, mais en même temps c'est très sérieux. C'est très sérieux par rapport à un monde qui souffre, par rapport à un monde qui appelle à l'aide. Et on en a marre de ces conflits,
difficultés, de ses jalousies, de ses peurs, de ses culpabilités, on en a marre. Oui, effectivement, on en a marre. Alors, c'est pour ça qu'on est un peu sérieux. Mais finalement, tout est neutre. Donc, tout va bien. Et quand on vous demande, comment vas-tu ? Ben, évidemment, tu dis, bon, ça va, je vais bien, mais profondément, immédiatement, on se dit, mais je vais très bien. Toi aussi, d'ailleurs. Parce que nous sommes le Fils de Dieu. Nous sommes l'expression du Père. Nous sommes la vie elle-même. Et il n'y a aucun problème. On semble avoir des problèmes, oui, c'est vrai. Mais nous allons très très bien. C'est ça le pardon dont parle le cours en miracle du début à la fin. Et le pardon est encore peu compris par beaucoup d'étudiants du cours. Mais c'est en train de changer. Nous nous réveillons en nous amusant, en disant, mais on s'est pris la tête pour rien. Tout va bien. Tout va bien. Et maintenant, nous allons effectivement être beaucoup plus dans la joie. Et nous ne sommes pas venus ici, effectivement, comme dans le passé, pour avoir des... Disons, comme dit Jésus, on va plus dans l'ombre, dans l'obscurité pour les autres. Nous arrivons maintenant à un âge d'or où nous allons et nous commençons vraiment à être de plus en plus joyeux, en souriant, en riant, en exprimant, en manifestant l'abondance, le non-conflit, la joie, la danse et la joie d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Je dis bien ensemble. Et c'est par nos relations que c'est en train de se passer. Et c'est des relations entre frères et sœurs égaux. Temporairement, il semble à des moments qu'il y en ait certains qui soient un peu plus conscients que d'autres. Ça, d'accord, c'est un processus, mais c'est un bon éclat de rire, parce que nous sommes qui nous sommes. Nous sommes l'expression du Père. C'est ce que disait Jésus il y a 2000 ans. En disant, mais il n'y a rien que j'ai que vous n'avez pas, puisque Dieu est tout ce qui est. L'humilité, donc, c'est prendre ma puissance. Mais ce n'est pas personnel, donc je ne vais prendre aucun crédit personnel. Et si on vient me voir en me disant, mais tu sais, Sylvain, c'est super, parce qu'à ton contact, il y a ceci, cela, très bien, ok, mais c'est ton affaire. D'ailleurs, je m'aperçois que je le dis extrêmement souvent, à des personnes qui me parlent comme ça, en disant, mais continue, c'est ta vision. Et la personne comprend, elle dit, ah mais oui, c'est ma vision, bien sûr. Tu m'aimes, tu me trouves extraordinaire. Ben oui, mais c'est ça, c'est ton regard. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un reflet de toi-même, alors ne te gêne pas surtout. Vas-y, c'est magnifique. c'est magnifique, c'est simple. C'est très simple. La vérité est simple, l'amour est simple. L'amour est, ce qui est, est. Et ce qui est, c'est qui vous êtes, vous qui écoutez ces mots, parce que c'est vous, c'est nous ensemble en tant que un. Ce que Jésus appelait le Fils. C'est dans sa méthode d'enseignement, c'est lui qui emploie ce mot Père et Fils. Si on voit d'autres grands maîtres sur cette planète, ils n'employaient pas ces termes-là. C'était sa façon de faire. Cela dit, l'énergie christique, l'énergie de Jésus, l'énergie de Jésus qui provient et qui provient toujours d'une grande équipe, c'est ce qu'il dit lui-même en disant, attention, j'étais un capitaine d'équipe, et encore, il y a eu d'autres capitaines, avant et après, hein, mais c'est ensemble, c'est l'équipe elle-même, et l'équipe, c'est vous qui, c'est nous ensemble qui écoutons ces paroles ou qui les partageons. Donc, l'humilité, c'est prendre ma place de fils de Dieu. Et je ne mets plus de limite à quoi que ce soit qui passe à travers moi. Bien sûr, je le fais pour mes frères et sœurs, pareil. Donc quand je vois un frère ou une sœur qui développe des talents, etc., ben je me réjouis, bien sûr. Je trouve extraordinaire. Et je suis vraiment au service. On est au service de la vie. Et être au service de la vie, c'est laisser la vie passer à travers nous. Et laisser la vie passer à travers tous nos frères et sœurs, sans aucune exception. Je dis bien... sans aucune exception.
J'ai envie de revenir sur le concept, sur l'idée de l'ego. Ça m'amusait parce que j'entendais ego. Je dis tiens, ego et être ego. Je dis, c'est marrant, c'est être égal Être tous égaux et être égaux. Alors, dis, tiens, c'est amusant parce que parfois en français, le langage des oiseaux a une signification. Et je dois avouer que j'écoute ce que vous dites concernant l'ego avec une certaine souffrance parce que ce qui est un ne peut souffrir de ce qui est deux. Et si je vois ego et un, il y a, à mon sens, une polarité. Et j'ai noté aussi des choses qui me... ce que j'appellerais peut-être des choix. C'est comme si je vois que chaque personne a fait des choix quelque part. Et en fait, je joue selon les règles du jeu que j'ai accepté de manifester.
Excusez-moi.
Si je prends le point de vue que... Si j'adopte le point de vue que l'ego et le 1, en fait, ne sont en réalité pas séparés, ce qui veut dire pour moi en termes pratiques... Ce qui veut dire, pour moi, en termes pratiques, la croyance que l'ego peut être aligné au 1, et qu'en quelque sorte, c'est une sorte de, disons, dans ma perception, une soupe chimique qui envoie des perceptions, des impulsions, qui peuvent, à certains moments, dépasser mon moyen de les contrôler, en quelque sorte. Et donc, je me vois basculer d'un état d'unité à un état de perception à travers un petit trou, quoi. Ou je suis dans la perception où, disons, inclusive, où je perçois à travers le champ d'expérience d'autres personnes, en réalité. Un champ d'expérience qui peut être plus ou moins vaste. C'est pour ça j'entends parler, bon, christique, galactique. Pour moi, ce sont des niveaux d'inclusion, en fait. Jusqu'à quelle limite je peux inclure d'autres aspects de moi-même en réalité. Donc c'est un peu le, comment dire, enfin j'avais envie d'amener cette petite touche concernant l'ego, ayant pris, disons la, si je veux, moi j'ai pas trop de, j'ai fait un parcours spirituel et pour moi le mot spirituel ne peut rien dire maintenant. J'ai fait 15 ans de quelque chose. Et pour moi, dans le principe de l'unité, la matière est aussi l'unité, donc tout est intégré quelque part. Donc il est difficile de dire ça c'est spirituel, ça ne l'est pas. Ce sont des catégorisations qui sont utiles pour communiquer dans un certain groupe peut-être qui a le même référentiel, donc c'est tout à fait utile. Mais je veux dire, mais alors, et plus précisément, parfois je me demande si ces distinctions, est-ce qu'elles pourraient introduire des séparations très subtiles, mais enfin très subtiles peut-être. Si je prends le point de vue de je suis l'unité et que dans mon langage je commence à intégrer la question de la séparation, du jugement, comme une sorte d'impossibilité de dire bon ben ça va pas, comme nous allons certaines personnes en parler ce soir, la question de l'ego étant un problème à éviter, quand j'entends parler de ça, j'ai l'impression que ça vient d'un courant un petit peu je dirais un peu hindouiste, où il y a cette idée que être ressentir le tout, en même temps, c'est incompatible avec ressentir le soi. J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où je vais pouvoir être en même temps en connexion avec l'unité, c'est-à-dire en connexion avec, ils ont un maximum d'autres aspects de moi-même, en particulier par rapport à peut-être quelque chose que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je fais un projet, si j'ouvre une porte. Bon, j'ai peut-être pas besoin d'avoir forcément une conscience hyper
Je peux. Ce sont des choix. Mais j'ai un peu l'impression, voilà, que c'est comme si je bascule de la totalité à l'unité, enfin de la totalité à la perception humaine en fait. Et que quand, en réalité, ce corps physique, il est tellement puissant que assez facilement, il peut prendre le dessus et je déconnecte de l'unité. Et donc, ce qui pourrait être a priori un problème, est-ce que ce serait pas par hasard, en fait, une opportunité? C'est-à-dire que si je bascule dans la matérialité, l'ego, si je veux, enfin c'est l'humain, moi j'aime bien utiliser le mot humain, c'est que je suis face à un potentiel très fort, qui est en fait l'unité elle-même. Est-ce que par hasard, lorsque je suis dans l'ego, est-ce que je ne suis pas en train de percevoir un maximum d'énergie qui vient non seulement de moi, mais en fait de l'ensemble qui m'entoure? Donc quand j'ai une peur, ce n'est pas juste peur que j'ai moi personnellement, mais je peux avoir peur du nucléaire, je peux avoir... Donc je me connecte avec des forces très très puissantes qui sont contenues dans le collectif et dans d'autres personnes. Et c'est peut-être pour ça, il y a un moment où moi je me dis, mais oui, c'est tellement fort, et c'est peut-être que ça ne m'appartient pas qu'à moi en réalité. Donc dans cette grille de lecture, je veux dire que j'ai une perception un peu différente, enfin, ou peut-être plutôt complémentaire, parce que j'ai fait un choix, c'est que j'ai décidé en fait de vérifier comme quoi l'unité, en quelque sorte, ça impliquait forcément, ça implique pour moi en tout cas, l'intelligence infinie. Et l'intelligence infinie, ça veut dire pour moi, bien sûr, je peux après m'atteler à tenter de créer des synchronicités. Quand je dis je tente, c'est je m'aperçois que humainement, j'ai plus les moyens, donc je vais voir si par hasard je peux mettre en route d'autres mécanismes qui sont en dehors de mes possibilités personnelles. Mais personnellement, je suis arrivé à un point, où peut-être je m'illusionne, mais par rapport à toute situation qui passait en face de moi, je peux trouver une solution qui vient de l'unité. C'est-à-dire que si je vois deux choses, je sais que, je vois deux, donc je peux aller voir quelque part à un point qui voit les deux et qui va me donner la solution. Donc, c'est amusant parce que, quelque part, j'ai l'impression, ou je suis en tout cas sur un chemin, pour être plus précis, de vérification, où tout est connaissable. Il y a une raison pour tout. Bien sûr, qui souvent les raisons que je trouve, elles dépassent de loin, si je veux, l'accord trois dimensionnel que je peux avoir sur les choses. C'est des raisons qui ont aucun sens à la limite pour l'humain. Donc ça, c'est pas utile dans le sens où je vais communiquer avec quelqu'un et que ça va l'aider. En général, ça aide pas. Mais personnellement, quelque chose est en train de se construire. On parlait du messager, par exemple, ce livre, Le Messager. Ces choses, elles sont réelles. Il y a un moment où je pense que l'ego, justement, il va servir à un moment donné, il y a un moment, je pense, où les capacités, d'ailleurs, tu parlais de Jésus était assez connu pour ça. Il y a un moment donné où la question de l'unité va passer par aussi la manifestation de ces capacités qui sont au-delà de l'humain. Il y a un moment donné, je peux dire, c'est l'unité qui passe à travers moi, qui guérit tout ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et ça marche. Mais l'ego, lui aussi, je pense qu'il peut être aussi un peu surélevé, en quelque sorte. Ou il peut être développé, avec toutes les erreurs que ça peut comporter, ça c'est clair. Mais disons, en ce moment, c'est là où j'en suis. Euh, Et si tu veux, en me mettant ce challenge quelque part, j'étais amené en fait à faire des vérifications de cet ordre-là. Je veux dire, c'est mon chemin. J'ai aucune idée. Est-ce que c'est adapté à quiconque qui écoute en ce moment ou qui écoutera dans le futur? Mais je me suis concrètement, ou des envies me sont venues de vérifier est-ce que je pouvais changer des événements qui étaient bien au-delà de mon toucher. Et bon, là, je vais pas le raconter parce que, en général, personne n'y croit. Mais si je raconte, c'est pas pour que les gens y croient. Mais la question, c'est que si je suis l'unité, et s'il y a des choses qui me dérangent dans le monde, est-il possible qu'il y ait une voie qui me permette de les modifier? Et dans ces cas-là, c'est en général, c'est assez clair. Je peux ressentir, est-ce que je dois ou pas le faire? La plupart du temps, il n'y a rien à faire. Mais je pense que la voie de l'ombre est aussi un élément. Elle existe, elle fait partie de la source. Et il y a des moments, il y a peut-être des raccourcis qui passent à travers l'ombre. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Mais il y a un moment donné où je crée tout ce qui se passe, je crée toutes les personnes qui sont torturées, je crée tout ça. Donc soit j'accepte complètement, je dis ok, c'est merveilleux et c'est parfait, ou soit je dis tiens, bah, pourquoi je ne changerais pas? Et c'est aussi parfait dans tous les deux sens. L'unité, c'est la capacité d'avoir des opinions différentes et de rester en quelque sorte dans ce fameux état d'accueil. Selon moi, bien sûr.
Le cours en miracle dit « La volonté de Dieu pour moi est le bonheur. » Le bonheur parfait. Et par principe, la volonté de Dieu est accomplie. Et effectivement, changer les choses dans le monde ou avoir cette impression de choses qui dérangent, très bien, effectivement, c'est pas nié, au contraire. D'ailleurs, il nous est dit, vous, les travailleurs de lumière, vous allez plus que jamais aller dans le monde, dans la matière, pour des manifestations concrètes. On est bien d'accord. La question, c'est avec quel état d'esprit j'y vais? Parce qu'en attendant, je suis là. Quand je dis je suis là, je suis un être humain. C'est-à-dire que c'est peut-être une illusion, mais c'est mon rêve. Et c'est le rêve de 7 milliards de frères et sœurs. Et on fait un rêve qui est apparemment différent chacun, mais le fil conducteur, c'est un rêve. C'est imaginé. Mais nous l'avons choisi. Et donc, c'est accueilli à plein, c'est aimé, c'est-à-dire accueilli à plein. Et cette fameuse phrase de la Bible, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, c'est repris dans le cours en miracle, et Jésus dit, là, à ce sujet, le ciel et la terre passeront, ça signifie qu'ils cesseront d'exister en tant qu'État séparé. Donc, effectivement, toute intervention, et quand nous parlons de non-dualité, de non-réalité de l'expérience humaine, c'est vrai que cette planète n'existe pas, qu'elle est imaginée, mais n'empêche qu'on a choisi l'expérience. Elle n'est pas niée, cette expérience. Le corps physique, les choses qui dérangent, toutes les émotions, positives, négatives, neutres, tout ce qu'on veut, c'est pas nié. Ça fait partie d'un tout. Et tout l'ensemble du rêve est soigneusement initié par l'esprit que nous sommes. Et tout à l'heure, donc, j'avais commencé en parlant de spiritualité. Mais la spiritualité, effectivement, c'est un mot. Tout le monde est dans la spiritualité, c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit, c'est une façon de voir, mais tout le monde a sa façon de voir. Il n'y a pas des choses qui sont spirituelles, des choses qui ne sont pas spirituelles. La matière est spirituelle, c'est une manière de voir, parce que finalement, de quoi nous parlons ici? C'est d'une façon de regarder. Et par exemple, devant moi, je prends un biscuit, là, qui est là dans une assiette, voilà, j'ai un biscuit. Et je lui ai donné une signification, c'est un biscuit. Bon, et puis je lui donne une...
un but, c'est fait pour être mangé, etc. Mais un enfant, il voit simplement quelque chose de brun, il ne sait même pas ce que c'est que le brun. Et peu à peu, on a donné des significations aux choses. Et c'est ça qu'on appelle l'ego. L'ego, il étiquette tout. Et on va à l'école et on apprend. On apprend la géographie, l'histoire, on apprend à tout étiqueter et on apprend à juger en bien et en mal. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que, par exemple, si des parents se disent « Mais oh là là, mais je vais envoyer mes enfants à l'école, ça va être affreux, ils vont apprendre vraiment des salades et des bêtises. Déjà, je vais peut-être choisir Steiner ou une autre école. Plus dans la conscience, peut-être, mais quoi ? Mais l'enfant, mon enfant, il est qui ? Il a choisi son expérience. Et donc c'est lui qui sait où il va, mais lui en tant qu'être divin. Et donc il est parfaitement guidé. Alors, effectivement, l'ombre est utilisée pour être vu en tant qu'ombre. Là, on a des messages qui nous arrivent de plus en plus d'autres mondes, ce qu'on appelle des mondes multidimensionnels, d'autres mondes dits extraterrestres ou des mondes de l'esprit, ce que vous voulez. C'est gigantesque d'ailleurs. Et ces messages nous disent, vous savez, nous, par rapport à vous, nous semblons être plus proches de la lumière. Mais quelque part, ça nous... on est là, on est passionné par votre expérience humaine parce que ça nous permet de prendre conscience de la beauté de la lumière, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, on baigne dedans, alors on... Et donc l'ombre est utilisée. L'ombre est utilisée, absolument. Et l'ego, c'est une croyance. L'ego, c'est pas un personnage, c'est pas quelque chose qui est à part, quelque chose. C'est simplement une façon de voir, c'est tout. Une croyance. Et tout le monde a des croyances, on a les croyances qu'on a. Et encore une fois, on ne peut pas venir ici sans un ego. Et donc, c'est parfaitement à sa place. Ça joue un rôle. Ça joue un rôle pour être vu en tant que ce que c'est. C'est-à-dire une illusion. Mais cette illusion sert à quelque chose. Sert justement à reprendre conscience de la lumière qui est incroyable. Et dans le cours en miracle, ce qui est intéressant, c'est la petite introduction du cours en miracle qui dit « Ce cours ne vise pas à enseigner l'amour ». La signification de l'amour qui est bien au-delà de ce qui peut s'enseigner. En revanche, ce cours vise à ôter ce qui fait obstacle à la conscience de la présence de l'amour. Parce qu'effectivement, quand on prend conscience de la présence de l'amour, c'est une joie incroyable. Et après tout, de quoi on parle ici ? Très bien, on parle de tas de choses, de concepts, c'est bien, mais de quoi on a envie ? Quel est notre désir profond ? Mais comme tout être, c'est d'être heureux. Et quand on est dans la joie, mais okay, on est dans la joie, c'est tout. Pas compliqué. Pas besoin de se casser la tête. On ne va pas chercher un éveil, on ne va pas chercher autre chose. Non, moi je suis heureux et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc ce jeu que nous jouons ici sert quelque part à nous réveiller à qui nous sommes, mais c'est pas un concept intellectuel, c'est pas intéressant ça. Des concepts, ok, c'est rien. Mais la joie. La joie de retrouver l'amour, la joie de retrouver la lumière. Et c'est ça qui passionne les autres mondes qui nous observent, là, qui observent cette petite planète bleue, là, qui est perdue dans cet univers gigantesque, là. Ça les passionne parce qu'ils disent, mais c'est incroyable votre histoire, là. Et il y en a beaucoup qui veulent s'incarner maintenant, qui veulent, pour vivre ce réveil ensemble. Où c'est une joie incroyable de retrouver qui nous sommes, là, justement, dans la matière, avec cet égo, là, avec toutes ces perceptions de dualité. De séparation, et je disais, mais tout ça, c'est rien, ça. Mais qui nous sommes, et les relations que nous avons ensemble, et les nouvelles, justement, manifestations que nous allons faire. Parce qu'effectivement, on se dit, mais c'est un monde un peu, effectivement, on parle de perfection, mais en attendant, c'est lourd, souvent, ici. Hein, puis ça semble, ça grince, ça manque un peu d'huile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, effectivement, il y a une envie de quoi ? Mais d'harmonie, la moindre des choses. Une envie de beau, de saint, c'est-à-dire de vrai, de vérité, d'amour, de partage, de rire, de joie. Alors effectivement, il va y avoir sur cette planète des nouvelles manières d'être, des nouvelles manifestations concrètes, des nouvelles structures, des nouvelles façons de gérer toute l'agriculture, la vie que nous vivons ensemble, c'est vrai. mais ça vient comme un produit qui vient d'un nouvel état de conscience. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que nous sommes créateurs, à cause de qui nous sommes. Et nous ne sommes pas l'ego. Bien que l'ego soit utilisé, c'est une croyance. Mais c'est une croyance imaginée qui n'est pas réelle. Et ça, si je donne une réalité à l'ego, très bien, ça n'a rien de mal, puisque rien n'est mal. Mais quelque part, je perpétue l'enfer, tôt ou tard. Parce que je suis créateur. Je suis créateur. Que je le veuille ou non, que ça me plaise ou pas, on est tous créateurs, puisqu'il n'y a que le créateur qui soit. Le créateur, c'est ce qui est, c'est le vivant, c'est la vie, c'est qui nous sommes. Et donc, nous vivons nos croyances. Et c'est neutre. C'est un jeu. C'est un jeu totalement innocent, parce que ça ne change rien qui nous sommes. Et on peut croire ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut, on peut créer un autre monde beaucoup plus harmonieux, très bien. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. C'est ce qui est en train de se faire. Dans un temps sphérique. Merci, j'aime beaucoup ce terme. J'aime bien ce terme, ce temps sphérique. Très bien. Mais il y a une joie formidable de se retrouver, d'imaginer ensemble et de changer d'illusion pour encore une nouvelle illusion, mais une illusion joyeuse, ce que le cours en miracle appelle le rêve heureux, avec effectivement des manifestations concrètes, oui, c'est un cours en miracle, donc des miracles, de l'harmonie, de l'abondance, de la joie, de la fête ensemble. Et au contraire, c'est pris à plein ça, bien sûr. Donc l'ego, c'est-à-dire cette croyance à la séparation, elle est justement aimée, c'est-à-dire accueillie totalement, plus que jamais, embrassée totalement. C'est ce que j'ai senti dans ton intervention, où il y avait cet appel justement à tout embrasser, et je dis oui. Enfin, c'est ma façon aussi de percevoir, parce qu'au fond on parle que de perception. Là. Et il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer. Et le jeu que nous jouons ensemble sur cette planète, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu amoureux, c'est un jeu d'amour. Il n'y a que ça qui a un sens. Alors les concepts, d'accord, on les utilise, ok, c'est bien, ils servent. Mais finalement, derrière, alors bien sûr, même le mot amour, c'est encore un concept, bien sûr. Mais comme l'éveil, c'est un concept, il n'y a pas d'éveil. Il y a ce qui est. Il y a l'être-t. Et donc, même l'amour, c'est encore un concept. Mais quand je dis mais, c'est une façon, c'est-à-dire, justement, dans cette illusion, dans cette dualité, la notion d'amour, qui est complètement au-delà des mots, c'est quelque chose qui nourrit, qui est vivant, qui nous appelle, qui nous réjouit. Et ça, c'est ce que nous voulons tous. Encore une fois, souvent la question c'est, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon désir profond? Oh ben je veux m'éveiller, mais qu'est-ce que c'est que l'éveil? Que ça veut dire se éveiller? Ou je veux devenir catholique, ou je veux devenir musulman, ou je veux devenir policier, ou très bien, mais enfin... D'accord, ok, très bien. Ça c'est l'enfant qui va jouer un peu. Et puis tôt ou tard, il y a mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et finalement, là, on se rejoint tous en disant mais je veux être heureux. Je veux être heureux, c'est tout. Je veux la paix. Mais je veux retrouver qui je suis vraiment et qui nous sommes tous. C'est encore un concept parce que les paroles qui sont dites, ce sont toujours des concepts. Et donc on les perçoit chacun différemment, c'est juste. Et c'est pour ça qu'on peut dire aussi que, par moments, on peut se dire, mais tout est dangereux au fond, parce que les concepts, on peut être prisonnier dedans. Oui, absolument. Un homme comme Jésus, il y a 2000 ans, bon, il avait un charisme, il avait une manière extraordinaire de reprendre les choses. Donc les gens étaient attirés par lui. Mais on pouvait dire que c'était dangereux. Il le savait très bien, puisqu'il disait, mais si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. Ça veut dire, ok... Je vous sers de modèle, peut-être, et vous êtes attiré par ma personnalité, mais c'est en vous que ça se passe. Donc il faut que je m'en aille, et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir, ça veut dire, si je ne m'en vais pas, vous êtes focalisé à l'extérieur de vous sur ma personnalité, qui est utilisée, encore une fois, oui, absolument, elle est utilisée, il ne s'agit pas de nier. Mais quelque part, elle est utilisée pour quoi? Pour le réveil à qui vous êtes vraiment. Voilà, et donc... On peut dire qu'effectivement, à chaque fois, bon, les concepts, ça peut être plus ou moins dangereux, pas dangereux, ça plaît pas, très bien. Mais finalement, c'est une bonne blague, tout ça. Bonne blague. C'est on s'aime, c'est tout. Mais c'est encore un concept de le dire. Et je sais très bien que les mots que j'emploie, eh bien, ça peut toucher certains et ça ne va pas toucher d'autres. C'est toujours comme ça. Aucune importance. Aucune importance. Le jeu est joué parfaitement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Bible en soi, il n'y a pas de... de thérapie en soi, il n'y a pas de livre qu'il faut lire, il n'y a pas de, d'atelier à faire, ou de, même un cours en miracle, c'est, il n'y a pas à le lire. Il y a des gens qui le lisent, qui s'en servent, d'autres qui se servent d'autres choses. D'ailleurs, le cours lui-même dit c'est un instrument parmi beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Alors c'est vrai qu'ici, chez Avi, bon, on parle beaucoup cours en miracle, c'est comme ça. Mais si on regarde bien, on parle de ça en étant propulsé bien au-delà de tout instrument, de tout outil. Et on est propulsé vers, vers le cœur, vers ces retrouvailles ensemble, en disant, mais on s'aime. Et ça, ça, c'est, ça, ça a la saveur de l'infini, ça a la saveur de la, du miracle, de la joie, de l'abondance, de la liberté, de la paix, du bonheur. Et c'est étonnant de voir à quel point le cours en miracle parle beaucoup de bonheur, le bonheur. Et beaucoup d'enseignements disent, mais non, il ne faut pas parler du bonheur. Comment? Comment il ne faut pas parler du bonheur? Vous n'avez pas envie d'être heureux, vous? Et bon, bien sûr, on peut rire. Hein. Donc, on revient à une chose simple. Comme un enfant, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer, l'enfant. C'est tout. Il a un appel à être heureux. C'est-à-dire, comme tous les animaux, comme la nature, si on regarde bien. Et cette nature qui nous appelle tant, en fait, elle se dévore elle-même tout le temps. Et finalement, c'est une bonne blague, il n'y a pas de mort. Mais on commence à regarder justement en face. Au lieu de se cacher, de dire on va sauver des petits oiseaux, etc. C'est très bien, au contraire, si je suis appelé à le faire, je vais le faire, avec dans la joie. Mais je sauve des oiseaux qui vont manger d'autres oiseaux ou d'autres choses. Il y a des prédateurs partout. Alors les dauphins sont adorables, et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des poissons tout le temps. Et puis tout est comme ça. Et donc on s'aperçoit que toutes les formes sont passagères. Et la vie est au-delà des formes, et pourtant la vie se manifeste dans les formes, donc dans les personnalités que nous représentons. Je parle des 7 milliards que nous sommes. Donc c'est pas nier ça, même si ces personnalités sont des rôles temporaires, comme une pièce de théâtre. Mais cette pièce, elle a un sens. D'accord, elle est imaginée. Mais elle permet quoi? Le réveil, qui est le but de l'incarnation humaine. C'est même le but de l'univers entier, de se réveiller à qui nous sommes. Parce que ce réveil, c'est une joie incroyable. Incroyable. C'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est ce que Jésus dit dans le cours en miracle, en disant, vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a rien dans votre monde qui approche un tant soit peu cette puissance de joie incroyable qui est le réveil. À qui nous sommes vraiment.
En fait, j'avais deux questions, moi, qui me venaient. Tout à l'heure, tu as dit que l'humilité, c'était d'être dans la puissance de qui on est. Et enfin, c'est peut-être un peu... Je me disais, pourquoi l'ego, il supporte pas ça? Enfin, pourquoi l'ego, il va à l'encontre de ça? Pourquoi il supporte pas cette humilité-là? Et voilà. Et l'autre question, c'était par rapport aux problématiques matérielles ou d'argent. Comment on peut voir... Comment on peut savoir qu'on va faire des choix d'amour et pas de peur quand ça concerne des, par exemple des procès, des enjeux d'argent, des choses qui font forcément peur. Enfin, sauf si on n'a pas peur d'être SDF, mais voilà. Voilà, j'étais avec ces deux questions.
pourquoi est-ce que l'ego ne supporte pas la puissance de qui nous sommes vraiment? Parce que l'ego ne connaît pas, il ne peut pas voir qui nous sommes vraiment. L'ego, c'est la croyance à la séparation. Cette croyance entraîne automatiquement une vision mesquine, faible. Nous nous sentons coupables, nous nous détestons profondément. C'est vraiment une haine de soi-même. L'ego se déteste, donc il va chercher à l'extérieur l'approbation des autres. L'ego se sent aussi vulnérable, manquant de tas de choses, donc il a besoin d'avoir des amis qui vont pouvoir, en cas de difficulté, l'aider. Il va avoir besoin de faire quelque chose dans la société pour être connu. Et donc pour dire, mais vous voyez, finalement j'ai un peu de valeur, ça suppose que l'ego se sent mais sans valeur. Il a une vision de lui-même épouvantable. Et donc quand on vient dire à l'ego que on est appelé à prendre cette toute puissance, c'est pas la puissance de l'ego, c'est justement je ne sais rien. Dieu est tout ce qui est, et donc ma personnalité, je la mets au service, je suis acté par la vie. Je laisse la vie vivre ma vie à travers moi. Et ça, l'ego ne supporte pas parce qu'il a l'impression qu'il va mourir. C'est ça que ça veut dire. Effectivement, c'est aussi accepter que je n'ai pas le contrôle avec ma personnalité. Et donc l'ego ne supporte pas du tout ça. C'est épouvantable, parce que si je n'ai pas de contrôle, mais je suis perdu. Et donc je ne veux pas le voir. Donc prendre sa puissance, c'est pas dire, moi je suis fort parce que je sais jouer au piano, donc je vais pouvoir me débrouiller, ou je sais cuisiner, donc je me sentirai toujours, je peux me mettre cook sur un bateau, ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ça, prendre sa puissance. La puissance, c'est, je laisse l'esprit œuvrer à travers moi, je prends la deuxième place, et donc je ne sais rien, et je ne possède rien par moi-même. Comme disait Jésus, je répète encore cette citation, de moi-même je ne fais rien. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Ça, c'est clair. Maintenant, ta deuxième question, c'était au sujet de l'argent et au sujet de savoir bon, s'il y a un procès, s'il y a de l'argent, s'il y a des choses malveillantes qui ont été faites, etc. Enfin, plein de choses qu'on connaît tous parce que pourquoi est-ce que l'argent est avec le sexe, un des deux instruments de travail majeurs, mais il n'y a pratiquement que ça sur cette planète? C'est parce que le principe de l'ego, c'est d'être séparé, donc d'avoir des besoins. Il semble que le corps, il faut que le corps se nourrisse, sans ça l'expérience s'arrête. Les animaux, d'ailleurs, passent leur temps à chercher à manger, hein, et puis quand c'est l'heure, ils s'accouplent, etc. Donc il y a des processus. Et l'argent, dans notre société actuelle, semble nous donner les moyens de satisfaire nos besoins. Le cours en miracle dit, ce cours ne vise pas à vous ôter le peu que vous avez. J'ajouterais le peu que vous semblez avoir. Parce qu'en fait, on a tout. Mais on croit que la possession matérielle, eh bien, ça nous sauve. Et donc, on croit que si je m'assure bien, si j'ai une bonne banque, si j'ai une bonne retraite, alors c'est pour ça d'ailleurs que je vais essayer d'être fonctionnaire, de militer pour me garantir au moins un peu de sécurité. On s'aperçoit dans la société actuelle qu'on découvre maintenant clairement que la société est menée par une poignée d'hommes, de banquiers, de hauts financiers, de gens qui sont très puissants. On le sait, mais d'un autre côté on dit, bon, c'est bien, mais en attendant, moi, je suis fonctionnaire, donc je vais m'en sortir toujours. Ou je suis ceci, cela, ou je suis avec un homme ou une femme qui a de l'argent, où je suis un peu reconnu, où j'ai tel métier, etc., donc je vais m'en sortir. Et donc on est sans cesse, inconsciemment, en train de se sécuriser par des stratégies et par des formes qu'on croit posséder. Alors, maintenant, arrive une invitation à dire, écoutez, les chéris, ça va pas, c'est en train de se casser la figure partout. Vous êtes invités à voir autrement. Ah bon? Qu'est-ce que c'est voir autrement? C'est voir par l'amour, dans l'amour. Ah bon? Très bien. Mais qu'est-ce que c'est voir l'amour? C'est, je respire et j'ai confiance. Je répète, je respire, c'est-à-dire et j'ai confiance. Tout le monde parle de confiance, mais personne n'y croit. Quand je dis personne, je parle dans le monde de l'ego. Le monde de l'ego ne croit absolument pas à la confiance.
Bien sûr, il va prôner la confiance, mais il dit, venez chez nous, ayez confiance en nous, parce que nous sommes une bonne banque. Venez dans notre religion, parce que vous allez voir que nous sommes... Bon, ayez confiance dans ces structures. Et les structures s'effondrent partout. Ça ne veut pas dire qu'il y a des coupables. Il n'y a aucun coupable. Mais effectivement, l'invitation à voir complètement autrement et avoir confiance dans l'instant, quelle que soit la situation, ben c'est pas évident. On est bien d'accord. Et ça peut faire très peur. Et d'ailleurs, je partageais tout à l'heure que hier, j'ai passé la journée à travailler là-dessus. C'est-à-dire, je me suis senti mal avec ça. Ça m'habitait. J'avais justement, c'était intéressant que tu parles de ça, justement, Estelle, parce que hier, j'ai travaillé là-dessus et je m'observais, je dis, c'est bizarre. Pourquoi je me sens mal aujourd'hui avec ça? Avec cette notion que je n'ai pas le contrôle, je ne peux rien contrôler. Et je le voyais vraiment. En général, on ne veut pas le voir. On dit, oh, attends, on va quand même se débrouiller, on va faire quelques stratégies, il y a quand même un minimum. Non, non, le message, c'est que tu n'as aucun contrôle avec ton ego. Mais en fait, tu contrôles tout parce que tu as choisi ton expérience. C'est ça la clé. Et donc ça prend du temps, c'est pour ça qu'on dit qu'on est sur un apprentissage. Peu à peu on quitte les croyances de l'ego pour avoir de nouvelles croyances qui sont la croyance de l'enfant qui a confiance dans l'instant. Comme dit souvent Avi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça ira bien. Je ne sais pas, je ne connais pas. Bon, tu parlais de procès, tu parlais d'avoir des difficultés financières, je ne sais pas, enfin bref, je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Comment est-ce que l'esprit voit la situation? L'esprit, il est en paix. Ah oui, l'esprit est en paix. Ben, l'esprit, il est dur, il ne comprend pas. Comment? L'esprit est dur, mais l'esprit voit tout, il est omniprésent, il peut tout, il est omnipotent, et il sait tout, il est omniscient. Et en plus, et ce qui est fondamental, c'est un esprit d'amour. Ah bon? Oui. Et donc, c'est l'esprit qui gère tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Effectivement, ça fait rire. Je te dis, mais attends, c'est géré par l'amour qui est infiniment puissant. Et où est mon problème? Et quelque part, pourquoi est-ce que j'ai du mal à vraiment accueillir ça? Parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment des problèmes. J'ai l'impression vraiment que dans mon procès, il faut absolument que je le gagne, sans ça je vais être lésé. Et je vais me faire encore avoir une fois de plus. Et je vais encore perdre. Et donc je crois à la perte. Et oui, bon ben d'accord, je crois à la perte. Donc je m'accueille avec mes croyances. Je m'accueille avec le fait que j'ai envie vraiment de gagner mon procès, j'ai envie d'avoir des stratégies. Ok, très bien. J'accueille mon ego fondamental. Il est là, il me sert justement à voir que c'est un ego. Et à faire l'expérience, comme dit le cours en miracle, comme dit l'introduction qu'on avait vue la semaine dernière, des leçons, des 365 leçons, en disant, c'est la pratique des leçons qui vous montrera que ça a un sens. Donc on pratique. On pratique quand? Ben maintenant, tout le temps, dans l'instant présent. Et donc, quand je suis, par exemple, je reprends ton exemple de procès, avec ses difficultés, bon, j'ai ce procès, ça m'habille, ça me hante, j'ai vraiment envie de le gagner, je me demande qui je vais choisir comme avocat, ou je ne sais pas, enfin bref. Ok, oui, ben j'accueille, oui d'accord, j'ai ces pensées-là, oui d'accord, j'ai des pensées, bon, très bien. Mais j'ai choisi un ego, je ne peux pas venir ici sans ego, donc c'est... inhérent à mon incarnation, à cette expérience que j'ai choisie, d'avoir ces pensées-là. Et c'est le fait de les observer qui commence à prendre un sens. Parce que le fait de les observer, je commence à comprendre que quand je m'observe dans ma colère, dans ma peur, dans mon angoisse, allez, je suis angoissé, je suis en colère, j'ai peur, je fais des stratégies, j'ai envie d'en faire, très bien. Ben, je respire dedans, tiens. Ah bon? Ah ben oui. J'arrête de me culpabiliser parce que apparemment, je semble avoir un ego. J'aime pas ce mot-là parce que l'ego n'existe pas, mais enfin, on semble. L'ego, c'est une croyance. Parce que je semble avoir des croyances d'ego, on va dire. Ben oui, ok, j'ai des croyances d'ego. Bien sûr. On en a tous ici. Et alors, Jésus nous dit dans le cours du miracle, ça, c'est la voie de l'ego. L'ego, il provoque la peur, la culpabilité. Respire. Demande de l'aide et peu à peu tu vas commencer à entendre une autre voix. Et je te promets que tu vas l'entendre. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette promesse-là? Parce que cette voix, c'est qui nous sommes. Donc elle ne nous quitte pas, elle est en nous. Mais l'expérience d'ego, effectivement, est très puissante. C'est vrai qu'on est dans une expérience incroyable sur cette planète. C'est une expérience où les polarités sont énormes. Et donc, elles jouent leur rôle, bien sûr. Elles jouent leur rôle. Elles sont utilisées. C'est pour ça que ça intéresse encore, comme je disais tout à l'heure, tant d'autres êtres d'autres mondes, en disant, mais votre expérience terrestre, c'est magnifique, parce que vous êtes dans une dualité incroyable. Et malgré ça, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de créer un âge d'or. Il va y avoir une planète magnifique par un changement de conscience. Et à ce moment-là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la fameuse troisième phrase, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Donc effectivement, si je sens de faire telle chose, de créer une nouvelle fondation, de faire de la permaculture, de créer des groupes de travail, j'en sais rien quoi. Bien sûr, je le fais. Très important. J'accueille mon expérience. Et l'expérience, c'est des choses très précises, comme par exemple un procès qui me hante, qui m'habite. Eh bien oui, j'accueille. J'accueille le fait que ça me hante et ça m'habite. Et je demande de l'aide en disant, voilà, j'observe ça, ok, j'ai choisi ça, j'en prends la pleine responsabilité. Je demande de l'aide à qui? À qui je suis? À l'amour que nous sommes. À l'esprit d'amour. Ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, saint, ça veut dire vrai, ça veut dire réel. L'esprit vrai que nous sommes, la réalité que nous sommes.
Je dois avouer, j'ai une expérience un peu bizarre de la réalité. Là, je pensais c'est ce que tu avais présenté concernant. Un procès. C'est-à-dire, dans ma vie, quand je regarde un choix, il y a une fréquence qui me revient. Ça va être soit léger ou soit lourd. Essentiellement, c'est soit ce que j'appelle une densité, soit une. Voilà. C'est plus ou moins dense, en quelque sorte. Simplement en regardant une direction. Pour moi, c'est tellement pratique. Et je l'ai vérifié tellement de fois. Voilà, donc j'ai un choix devant moi. Je suis dans un monde où il n'y a plus de règles. Reproduire le passé et simplement rester dans une sorte de confort ou de reproduction. Et qu'en fait, a priori, l'esprit, en quelque sorte, ou l'infini, je parle de l'infini, m'envoie une situation pour me faire découvrir un nouvel aspect de moi-même, en quelque sorte. Donc, les choix, ils sont hyper simples. Soit j'oublie de regarder, dans ce cas-là, je fonce, bon, peut-être ce que tu pourrais appeler l'ego, je fonce dans le schéma humain, ou soit j'ai le temps de me poser, de ressentir, et là, les décisions deviennent, pour moi, sont très claires. C'est vraiment, je regarde et je sens. Et si j'explique ça systématiquement, j'ai un background d'informaticien, donc pour moi, je suis dans une matrice, donc un hologramme, qui est simplement la conséquence de mes pensées. Il est même très possible, d'un point de vue pratique, qu'il y a comme une fréquence, comme une horloge, et une question que je me suis posée, c'est à quelle fréquence cette horloge fonctionne, c'est-à-dire que ma pensée, elle est simplement, comme une machine à photocopier, elle est simplement multipliée. Reproduite. Donc tant que je pense d'une certaine façon, il se reproduit le résultat. La seule façon de changer le résultat, c'est de changer la façon dont je programme en fait l'univers. Et par contre, ces fameux soi-disant pouvoirs parapsychiques, je pense que tout le monde les a, parce que tout le monde est l'infini, pour commencer. Après, ça se module suivant les personnes, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui sont plutôt... qui ont une sensation plus au visuel, d'autres c'est extra clairvoyant ou extra
Et les gens, c'est gustatif, c'est bizarre, mais ça arrive, j'en ai rencontré comme ça. Voilà. Et donc, avec mon talent particulier, je vais pouvoir voir, sentir, soit si je suis kinesthésique, mais je vais pouvoir me guider. Et c'est là que j'ai le choix entre fonctionner dans l'humain, avec toutes les logiques qu'il y a, ou dire, tiens, je suis attiré vers, je sais pas, ce gars-là, il est peut-être un... Peut-être pas un avocat très connu, mais je sais pas, je me sens attiré vers là. Et là, pour moi, après, d'un plan pratique, ça revient à combien de fois je peux, dans ma journée, m'orienter du point de vue de l'infini. C'est pas quelque chose de du tout, vaporeux. C'est hyper pratique. C'est-à-dire, j'ai 10, 20, 30 opportunités dans la journée. Même quand je suis en vélo, là, je sens, je dois prendre là. Et je sens quand les voitures m'arrivent, quand je vois pas qu'il y a un carrefour, mais je sais qu'il y a une voiture, parce que je le sens, ça peut avoir plein de modalités. À un moment donné, ça me dit simplement ralenti. À un autre moment, plein de choses comme ça. Mais il arrive un moment où ça devient hyper pratique. Soit je teste mes capacités, c'est pour ça que je reviens à cette histoire de l'ego, ben oui, à un moment donné, je vais me dire je teste ou pas, je sens ou pas. Et je le fais 10 fois, 20 fois, 30 fois, moi ça fait presque 20 ans, 30 ans que je fais ça. Et en fait, j'applique seulement ce processus hyper simple. Et là, j'ai toujours toutes les réponses. Et si je n'ai pas la réponse, c'est parce qu'il fallait... J'ai prévu... Alors ça, je rejoins ce que tu disais un peu. Si dans une situation, je prends le point de vue créateur, c'est-à-dire, j'ai un procès avec quelqu'un, par exemple, ou j'ai un problématique avec, je sais pas, la féminité, les femmes, ou j'ai un problématique avec... J'ai créé cette situation pour me réveiller un aspect de moi-même. Enfin, réveiller, me reprendre conscience de qui je suis. Donc, voilà. Mais de voir quelque chose qui est déjà là, en fait. Donc, si je reprends ce fameux point cause, il n'y a aucune situation. Évidemment, ce sont des rébus qui paraissent insolvables. Mais je pense que c'est important, ça peut être intéressant d'essayer de les résoudre. Par méthode, alors là, très différente suivant chaque individu. Donc voilà, je teste. Moi, je suis dans pour ça que la spiritualité, ça me, le mot, comme il induit tellement, tu vois, l'aspect contemplatif, si tu veux. Alors pour moi, que la spiritualité, c'est l'inverse, c'est hyper pratique. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans la gestion des toutes petites choses, quoi. Et que par l'accumulation de ce processus, il se passe des synchronicités qui là me disent, tiens, ça a l'air de marcher. C'est pour ça que quand je parlais de l'ego, c'était important. C'était pas dans le sens. Tu vois, c'est dans le sens. Peut-être que j'ai des capacités. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on parle de la même chose avec deux visions différentes, si tu veux. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si par hasard je cherche de façon systématique à éviter l'ombre, est-il possible que je me coupe d'une possibilité? Parce qu'il y a peut-être un moment, alors moi j'ai fait l'expérience, je suis dans le monde des cristaux, et j'ai donné des cristaux, j'ai fait le calcul, j'ai donné au prix actuel des cristaux que je peux voir dans le magasin, 2000 euros de cristaux que j'ai donné dans l'esprit un peu amérindien, je donne ce qui est le plus beau que j'ai et je l'offre. Et récemment, c'est arrivé à un moment, on m'a dit, je suis arrivé dans une espèce d'impasse où ça a dit stop, parce que là, tu vas donner jusqu'à où? Je veux dire, il y a un moment où l'ego, justement, il a besoin aussi de... Je peux arriver là, presque à un point où je me fais... J'essaie d'aller tellement loin de l'ego que je ne me fais plus le bien, tu vois, et que j'en ai besoin aussi pour vivre. Bon, chacun se trouve à un aspect du spectre dans différents aspects dans sa vie. Ça, c'est pas du tout pour aller. Voilà, c'est utile pour moi. Est-ce qu'il est utile pour l'un et pour l'autre? Pas forcément. Hein. Tout est toujours nouveau, donc je peux pas vraiment donner de loi. Il y a que ce qui marche pour moi et ce qui marche pas pour moi. Voilà.
Alors, moi, il y a une phrase qui me vient à l'esprit qui me parle beaucoup. C'est une phrase de Ken Wapnick qui dit cette chose très simple et très facile à comprendre pour moi. Ce n'est pas ce que vous faites qui est important, mais comment vous le faites. Et donc, comment je peux faire un procès en étant guidé par le désir de vengeance ou de gagner. Et je peux faire un procès parce que je sens que c'est ce qu'il y a de plus juste à faire à ce moment-là. Et ça ne me met pas dans un état émotionnel égotique, hein, séparé. C'est-à-dire, si le procès me sépare de l'autre en tant qu'adversaire, alors j'entretiens l'esprit de séparation. Donc, quoi que ce soit que je fasse, je peux le faire en étant guidé par l'esprit, comme quand je suis, un relis GPS, un GPS sacré, hein, en lequel je fais confiance pour me guider dans mes décisions, comme ce que tu disais, Thierry. À un moment donné, stop, vas-y, regarde à droite, fais attention. Moi, quand je roule en vélo, je vois qu'il y a une voiture qui arrive un petit peu vite ou qui suggère un danger, tout de suite ça dit oh là oh là oh là oh là oh là oh là, et hop, je deviens hyper conscient, et puis il se passe jamais rien, ça dégénère jamais, parce que c'est comme une communication qui se fait avec l'autre voiture à ce moment-là. Donc la notion de se laisser guider et faire confiance, elle est fondamentale, hein. C'est-à-dire je peux faire n'importe quoi, mais c'est l'état d'esprit derrière le choix qui est important. Donc il n'y a rien qui soit meilleur qu'autre chose, hein. Et ça m'amène à parler de vision, parce que la non-dualité tout entière, mais aussi un cours en miracle, est une histoire de vision. Hein, c'est-à-dire comment je vois le monde. Hein, je peux voir le monde comme étant une source de problèmes, et là je suis victime du monde que je vois. Et je peux voir le monde comme étant un champ d'expérience, et à ce moment-là, bah, c'est un champ d'expérience qui, comme tu dis Thierry, me révèle des aspects de... Voilà. Je me révèle des aspects que j'ai besoin d'apprendre ou que j'ai besoin de me rappeler de qui je suis, hein, des facettes, hein, comme le cristal a des facettes. Mais moi, je peux apprendre des facettes de moi-même. Et ça me faisait penser, tout à l'heure, à cette... Cette belle, j'avais trouvé une belle vidéo sur la Kabbale, et jusqu'au dernier instant, je n'avais aucune idée que ça provenait d'un enseignement kabbalistique. En fait, elle n'a pas d'importance en soi, hein. Mais cette vidéo disait des choses assez puissantes pour moi. Nous sommes immergés dans la réalité, dans l'unité, dans le monde réel, mais nous sommes dans une boîte noire, à l'intérieur d'une boîte noire, et qui a 5 orifices que représentent nos 5 sens. Et tout ce que nous savons de la réalité provient des informations qui passent à travers ces 5 orifices. La vue, l'odorat, etc. Et sachant que nous percevons la réalité à travers notre cerveau et nos sens, et nous la percevons par une série de signaux qui en fait sont des interprétations de ce qui se passe. Et ce qui se passe d'étonnant, c'est que nous ne mettons jamais en doute ça. Hein, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je goûte, sachant que notre esprit, en l'occurrence le cerveau, mais aussi étant dirigé par l'esprit de séparation, hein, puisque il n'y a que ça qui peut me faire percevoir un monde séparé, peut générer n'importe quelle perception, interpréter une perception de la manière qui me convient, de la manière dont j'ai envie de voir le monde. Et c'est pour ça que je peux voir un monde menaçant, ou je peux voir un monde amical, où je peux aussi voir ce que je crois plutôt que croire ce que je vois. Ça veut dire que les perceptions que j'ai dans cette boîte noire, je peux, avec l'esprit de l'ego, choisir les perceptions qui confortent la séparation. Parce que j'ai décidé de croire en un monde séparé. Et donc, en tant qu'esprit puissant, je peux générer, même étant immergé dans ce monde réel, étant dedans, étant faisant corps avec lui, je peux laisser entrer dans ma boîte noire que ce qui convient à l'esprit de séparation. Voilà, c'est aussi redit hein, dans un cours en miracle. Je ne laisse monter à la perception que ce qui convient au choix initial que j'ai fait de vivre dans un monde de séparation. Donc, rien n'est plus simple pour l'esprit séparé que de générer les images que j'ai envie de voir, de générer les sons que j'ai envie de voir, les odeurs que j'ai envie de sentir, et puis de dire, voilà, ça c'est la réalité. Mais est-ce que je mets en doute ça, hein, ces perceptions? Alors, le cours en miracle, mais moi je commence vraiment à croire à ça, dit qu'avec l'esprit, nous fabriquons les perceptions qui conviennent à ce que nous voulons croire. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe, plutôt que je le vois, donc ça existe. Hein. J'ai envie que ça existe, donc je fabrique. Je fabrique les perceptions, je fabrique le monde, je fabrique tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je goûte, tout ce que je sens, puisque ce ne sont rien d'autre qu'une série d'impulsions nerveuses qui arrivent à mon cerveau. Est-ce que ça rend les choses réelles, hein, si je m'en tiens à ces trains d'impulsions qui arrivent à mon cerveau? Souvent je cite la physique quantique qui dit on peut très bien avec un ordinateur fabriquer ces trains d'impulsions. Et tout d'un coup je vais me dire, ah bah tiens, Je vois la réalité alors que mon cerveau il peut être complètement enfermé quelque part et juste branché à un ordinateur. Donc la capacité de mettre en doute ma perception, c'est le début du salut pour moi. C'est pas parce que je vois quelque chose, c'est pas parce que je ressens quelque chose, c'est pas parce que j'entends quelque chose que c'est réel. J'ai décidé que ça devait être réel. Je l'ai décidé. Et donc, à qui je tends, j'ai des perceptions qui m'arrivent. Certaines sont justes, comme tu dis, j'ai des guidances, j'ai des choses qui font que ma vie s'oriente d'une certaine manière, qui me rend la plupart du temps heureux, et puis avec cette capacité grandissante à aimer et à donner de l'amour sans condition. Et j'ai d'autres perceptions qui font le contraire. Il s'agit d'interpréter. Hein. C'est comme si j'avais ce micro-là et je dis, voilà, à quelle réalité je donne le micro. Hein. Qui je charge d'interpréter mes perceptions? Est-ce que je donne la priorité aux perceptions de ces cinq sens qui sont dans ma boîte noire, ou est-ce que je donne la priorité à cette intuition fondamentale qui, lorsque je suis plus tranquille, plus posé, peut m'enseigner des choses beaucoup plus justes pour moi. Et le sentiment que c'est juste, c'est associé à un sentiment d'être en paix. Hein, c'est associé à un sentiment que tout va bien. Encore 5-6 minutes. Mais c'est possible de quitter le groupe avant la fin officielle. Et donc, le cours appelle les perceptions de l'ego, la perception de la séparation, qui est véhiculée par nos sens, une perception fausse. C'est-à-dire que j'ai inventé, j'ai fabriqué ces perceptions pour que j'ai l'illusion que ça se passe vraiment comme ça, que je suis victime du monde que je vois, hein, entre autres. Donc c'est le début du salut, c'est de remettre en question ce que je perçois. Bien sûr, si je ne me considère que comme un corps, si je me considère comme l'ego, hein, si je m'identifie à l'ego, c'est extrêmement effrayant. Et c'est pour ça qu'il y a un processus graduel, avec un cours en miracle, mais aussi avec ma vie, avec les expériences qu'elle m'amène, qui peut se être pris par la main dans une série d'expériences dans lesquelles je suis accompagné, hein, pour regagner progressivement une perception qui sort de l'identification à l'ego, qui sort de l'identification à la peur aussi. Mais si je remets pas en question la perception de l'ego, si à un moment donné je ne pose pas la question fondamentale, mais est-ce que c'est parce que je le perçois que c'est réel, alors il n'y a pas de porte de sortie. Hein. C'est important de remettre en question ce que je perçois. C'est pas parce que je le perçois que c'est vrai. Je peux choisir des perceptions. Je peux inventer, je peux fabriquer des perceptions. Et je peux distinguer les perceptions qui m'aident à devenir plus en paix, plus calme, plus tranquille et plus aimant des autres perceptions avec lesquelles j'interprète ma réalité, hein, et qui font que je me sens de plus en plus séparé, de plus en plus... avec lesquels je m'oppose de plus en plus au monde que je vois. Et donc je fabrique avec ça de la séparation toujours plus, toujours davantage. Voilà, alors je donne une chance, hein, à cette hypothèse que ce que je perçois peut ne pas être réel. Si je donne une chance que cette hypothèse puisse être vérifiée, alors c'est le début de la fin de l'expérience de séparation. Il faut bien qu'il y ait un premier pas. Le premier pas, c'est de remettre en cause ma perception. C'est pas parce que je le vois que c'est réel ou que je le perçois que c'est réel, c'est parce que j'ai voulu le percevoir que je le perçois ainsi. Hein. C'est quand même très différent. Hein. Et je peux être avec ce premier pas qui demande un certain courage. Hein, parce que c'est comme si l'ego se dissout et que je crois que je suis l'ego, alors je crois que je me dissous. Et ça peut être effrayant. Hein. Mais je suis toujours accompagné. Hein, je suis toujours accompagné par la partie de moi qui n'a jamais quitté l'unité, qui est dans, qui m'insuffle des perceptions justes lorsque je tends l'oreille, lorsque j'écoute par autre chose que les sens terrestres, hein, l'antenne que j'ai qui me connecte au tout. Et cette antenne, elle parle avec l'amour, par l'amour et dans l'amour. Voilà, je sens juste de terminer le groupe maintenant, après ces quelques phrases. Et avec le son final de ce gong, je vous donne rendez-vous dans la joie à un prochain partage autour de l'unité.